journal est présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Les gardes-côtes italiens décident d'évacuer 49 des 198 rescapés secourus par le Louise Michel lors de sa première mission de sauvetage en Méditerranée. Précision dans un instant d'Alicia Miami. Mercredi dernier, les Bucks de Milwaukee, choqués par le sort réservé à Jacob Blake, visé dans le dos à 7 reprises lors de son arrestation par un policier blanc, mettaient la NBA sur pause. Les playoffs ont repris ce samedi après signature d'un accord, correspondance de New York de Loïc Loury. En fin d'édition, la vague d'indignation soulevée par la publication par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles d'un récit sur les responsabilités des Africains dans l'esclavage en prenant pour figure la députée La France Insoumise Danielle Obono. Explication de Diane Berger. Deux agences de l'ONU, l'Organisation internationale pour les migrations et l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, réclament le débarquement urgent des migrants se trouvant à bord du Louise Michel, mais aussi de deux autres navires, trois bateaux transportant au total plus de 400 migrants en Méditerranée. Bonsoir Alicia Miami.
Bonsoir Mathieu.
Alicia, les ONG formulent toujours les mêmes doléances, manque de solidarité en matière d'accueil des migrants en raison de désaccords au sein des 27 et pourtant...
Pourtant, l'urgence en Méditerranée est absolue. Le Louise Michel est un petit navire d'une trentaine de mètres qui menace de verser sous le poids des migrants réfugiés à son bord. Face à l'absence de réaction des autorités italiennes et maltaises, ce sont donc les ONG qui volent au secours des ONG. Le navire humanitaire Sea-Watch 4 et un bateau de l'association italienne Mediterranea sont partis porter assistance au Louise Michel, mais la situation sur place est confuse. Trois bateaux différents tentent de coopérer tout en prenant en compte les risques liés au Covid. Le Sea-Watch 4, qui transporte une équipe de médecins sans frontières, devrait recueillir une partie des migrants du Louise Michel, alors même qu'il abrite déjà plus de 200 personnes. Les gardes-côtes italiennes, vous l'avez dit, viennent d'évacuer une cinquantaine de migrants fragiles, principalement des femmes et des enfants, mais ils n'ont toujours pas indiqué de port sûr aux différentes ONG en attente. Et même avec un port sûr comme destination, la situation pourrait encore se compliquer pour les ONG, comme l'explique Asiba Al-Sarawi de Médecins Sans Frontières.
Les autorités italiennes, si on devait débarquer en Italie, vont par la suite, alors qu'on entreprend tous ces sauvetages à la demande des autorités parfois, ou parce que les autorités ne répondent pas à leurs obligations, vont nous dire « vous avez eu trop de personnes à bord de votre navire, vous les avez par conséquent mis en danger » et vont saisir le navire. Et on sait aussi que les navires commerciaux qui pourraient se situer aux alentours ne vont pas se hasarder à venir aider. Parce qu'un navire commercial qui a procédé à une opération de sauvetage il y a 3 semaines à la demande des autorités maltaises et qui se trouve bloqué en mer avec 27 personnes à bord. On est vraiment dans une situation de pourrissement et qui est le résultat direct de politiques étatiques.
Les trois navires se situent dans une zone de recherche et de secours, ce qui contraint normalement les États européens à leur venir en aide. C'est la raison de l'intervention des gardes-côtes italiens. Mais à l'heure actuelle, plusieurs centaines de migrants et d'humanitaires restent coincés en mer indéfiniment.
Merci à vous, Alice. Ici à Miami, la Turquie a commencé de nouvelles manœuvres militaires en Méditerranée orientale qui doivent durer 2 semaines, signe que les tensions entre Ankara et Athènes liées au partage des ressources gazières dans cette région vont se prolonger. La police allemande disperse une manifestation qui a rassemblé à Berlin près de 20 000 personnes opposées aux restrictions imposées par la pandémie. Ils étaient nettement moins nombreux à Paris, 200 à 300 dénonçaient le port obligatoire du masque avec le soutien de quelques gilets jaunes et a accusé le gouvernement de, je cite, « manipuler les gens par la peur ». L'Allemagne, la France et la Hongrie, autres pays confrontés à une nette augmentation du nombre de cas de coronavirus dont les autorités ont décidé de fermer les frontières à compter de mardi. Les précisions à Budapest de Florence Labrouillère.
À partir du 1er septembre, les étrangers ne sont plus autorisés à entrer en Hongrie, à l'exception des diplomates, des voyageurs d'affaires et des convois militaires et humanitaires. Quel sera le sort des étudiants et des résidents étrangers qui travaillent en Hongrie et s'apprêtent à revenir de vacances? On l'ignore encore. Des informations devraient être publiées au journal officiel. Quant aux citoyens hongrois de retour de l'étranger, ils devront observer une quarantaine pendant 14 jours ou bien présenter 2 tests négatifs. Pour le gouvernement, le danger vient clairement de l'extérieur. La plupart des nouvelles infections sont d'origine étrangère. La Hongrie est classée verte et tous les autres pays sont rouges, a martelé le chef de cabinet du Premier ministre. Pourtant, l'un des porte-parole du gouvernement est tombé malade alors qu'il n'a pas quitté le pays. Les autorités hongroises stigmatisent les étrangers. Au printemps dernier, elles ont expulsé manu militari 14 étudiants iraniens accusés d'avoir propagé le virus dans le pays. Depuis, le procureur de la République hongroise a abandonné les poursuites. Preuve, selon les organisations des droits de l'homme, que les accusations contre les Iraniens étaient arbitraires et qu'elles avaient pour but d'en faire des boucs émissaires.
Des dizaines de milliers de Mauriciens ont défilé dans les rues de Port-Louis pour étrier la gestion par le gouvernement de la marée noire qui a ravagé la côte sud-est de l'île Maurice début août. Mobilisation d'une ampleur exceptionnelle. L'assassinat la nuit dernière à Haïti du bâtonnier du barreau de Port-au-Prince, Montferrier Dorval, était tué par balle à son arrivée à son domicile. Depuis des mois, les organisations de défense des droits humains dénoncent une recrudescence de l'insécurité. Pour plus de justice sociale, et je cite, d'égalité salariale, ce sont les termes du patron de la NBA ainsi que ceux des syndicats des joueurs qui nomment leurs objectifs après avoir refusé de jouer pendant 24 heures pour protester contre les violences policières à l'encontre des Afro-Américains et les discriminations dont ils souffrent. Les joueurs de la Ligue nationale de basket nord-américaine ont obtenu des engagements, notamment s'agissant de l'accès au vote pour l'élection présidentielle de novembre prochain. New York, Loïc Loury.
Le boycott initié par les Bucks de Milwaukee était historique, ce plan d'action l'est tout autant. À l'origine de cette feuille de route, une réunion téléphonique de plusieurs heures, jeudi dernier, impliquant joueurs, entraîneurs et propriétaires d'équipes, dont Michael Jordan, le patron des Charlotte Hornets, qui a joué ici le rôle de médiateur. À l'arrivée, trois décisions ont été prises, résumées dans un communiqué. D'abord, la création d'une coalition pour la justice sociale, sorte de comité de réflexion. En deux, plus concret, un engagement à transformer les salles de basket en bureaux de vote pour la présidentielle, dans un pays où la discrimination électorale touche notamment les Noirs. Enfin, troisième point, des spots publicitaires seront diffusés durant chaque match de play-off pour promouvoir l'engagement citoyen avant l'élection. Avec ce plan, la NBA, et notamment ses joueurs, sont une fois encore en pointe sur ces questions sociales et raciales, très engagées, notamment après la mort de George Floyd. Mais les messages de justice floqués sur les maillots, le genou à terre pendant l'hymne, bref, les gestes symboliques n'étaient pas suffisants. Le changement doit se produire maintenant et par l'action, disait jeudi la star LeBron James. Cela commence donc par ce plan hautement politique.
Loïc Loury à New York. De l'autre côté de l'Atlantique, une certaine presse Valeurs Actuelles a pris la figure de la députée La France Insoumise Danielle Obono pour, dans un récit de cette page, aborder la question de la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage au XVIIIe siècle. L'élu est dépeinte en esclave, la classe politique d'un bout à l'autre de l'abscisse, ainsi que les deux têtes de l'exécutif, condamnent, je cite, une représentation abjecte et inacceptable, une apologie du racisme. Fin de citation. Bonsoir, Diane Berger.
Bonsoir.
Diane, Valeurs Actuelles a, dans l'après-midi, formulé des excuses.
Le magazine assure qu'il n'avait pas l'intention de blesser Danielle Obono, pas d'arrière-pensée xénophobe, mais la députée concernée, elle n'a pas vu les choses de la même façon. Sur Twitter, elle note, je cite, « On peut encore écrire de la merde raciste dans un torchon illustré par les images d'une députée française noire africaine repeinte en esclave. La condamnation de la classe politique a été unanime, le journal est allé trop loin. Emmanuel Macron a lui-même appelé Danielle Obono pour lui faire part de sa sympathie et de sa solidarité. Une prise de position bienvenue, mais quelque peu paradoxale, explique Alexis Lévrier, historien du journalisme, car ce n'est pas la première fois que Valeurs Actuelles se fait remarquer pour ses contenus jugés racistes.
Beaucoup de personnalités politiques ont continué à faire comme si Valeurs était un journal comme les autres. Et effectivement, on a vu Emmanuel Macron accorder une interview à ce journal dans des conditions extrêmement gênantes, problématiques, puisque c'est une interview qui n'a pas eu de relecture, alors qu'on sait que les équipes de communication de l'Élysée veulent toujours relire les rares interviews qu'accorde le chef de l'État. On a eu encore récemment une interview de Manuel Valls, qui l'a encore joué avec ses thématiques identitaires, ses thématiques d'extrême droite. Et au sein même de la France Insoumise, vous avez des gens comme Alexis Corbière qui ont accordé des entretiens à ce journal. Je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie ou si c'est de l'ignorance, mais il y a une tendance de la classe politique à faire comme si ce journal était un hebdomadaire comme les autres, ce qui n'est absolument pas le cas.
Et ces entretiens sont accordés, ajoute le chercheur, dans l'espoir de rattraper les votes des lecteurs du magazine, proche de Marine Le Pen quand ce n'est pas directement de sa nièce Marion Maréchal. Alexis Lévrier espère maintenant que cette polémique fera l'effet d'un électrochoc sur la classe politique.
Merci à vous, Diane Berger. Enfin, le temps de demain dimanche qui s'annonce encore instable avec risque d'averse et toujours frais avant l'arrivée d'une amélioration l'information en cours d'après-midi par l'Ouest. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau, à la technique Édouard Rubinstein.